Chronique Mutante.
Un magazine queer, punk, anarchiste et féministe.
Tous les samedis de 18h à 19h sur Radio Panique 105.4.
Salut.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Tout le monde parle bien devant son micro, tout ça.
Je crois bien.
Oui, okay. Chef.
Super.
Je
m'entends pas vraiment, moi, dans ce micro.
Je m'entends pas non plus.
J'entends tout le reste, mais pas moi.
Alors, je vais regarder. Ah, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un petit truc de... Comme ça, ça va ?
Un, deux.
Allô ?
Là, ça va.
Bienvenue, si vous ne l'avez pas remarqué, bienvenue dans Chronique Mutante.
Voilà, hein, comme ouais, presque, supposément, tout, a priori tout le samedi, de 18 à 19h, même si on n'est pas très régulier ces temps-ci.
Est-ce que vous m'entendez ou pas quand je parle dans le micro, dans votre casque ?
Oui, relativement oui. Bas, mais...
Mais on t'entend, on t'entend.
Attends, on va augmenter un peu et tous moi. Les niveaux.
Et voilà, aujourd'hui, tout un programme. Alors, qui est là autour de la table ?
Salut, moi c'est Margot.
Coucou.
Coucou Margot.
Coucou.
Moi c'est Laïla.
Et moi, Samy.
Samy qui est ici en tant que Samy Souci, photographe, notre invité.
Oui, c'est ça.
Double casquette chroniqueur à interviewer.
Exactement.
D'ailleurs, tu vas devoir procéder à ta propre interview.
C'est ça.
Oui, parce qu'on n'a rien préparé.
Moi non plus. Je vais m'interviewer en improvisation.
Wow. Et donc, on va parler de ton expo à la Vannerie, c'est ça ?
C'est ça, qui aura lieu au mois de mai.
Super. Moi, je vais vous proposer une chronique historique. Voilà, d'un personnage de l'histoire. Je vais vous parler de Lucy Hicks et de sa vie.
Ah. Et moi, je vais vous parler d'une autrice que j'ai découverte récemment et dont j'ai lu... deux romans. Elle s'appelle Justine Niogret et elle écrit des histoires qui se passent dans un Moyen-Âge imaginaire avec des guerrières de plus de 50 ans, super badass.
Oh yeah.
Voilà.
Et
on un point agenda aussi.
Ben pourquoi pas. Moi j'ai. Tu as des choses à communiquer.
Il y a peut-être quelques dates, oui.
Super. Trop bien.
On va trouver. Et toi, Poussin ?
Oh ben moi, je vous fais la régie et je passe la musique. Et j'ai un petit dicton à vous partager.
Ah, okay.
Si vous croyez qu'il n'y a plus aucun espoir, pensez au homard qui croupissait dans le restaurant du Titanic. Voilà.
J'y penserai.
Et alors j'ai un petit morceau d'intro de circonstance. Le titre, c'est « Le ciel n'est qu'un immense chagrin bleu ». Comme vous pouvez regarder à travers les Velux du groupe Citron. Et j'essaie de mettre play, ça marche ? Oui.
1, 2, 1, 2.
Je suis
ta bonne mine? T'as fait un truc à tes cheveux?
Non, j'écoute Chronique Mutante. De retour dans Chronique Mutante pour avoir bonne mine ensemble. C'est le moment de Chronique Historique et aujourd'hui on va vous parler de Lucy Hicks, une femme transgenre noire aux États-Unis qui était une pionnière. Elle est née au 19e siècle et elle a défendu ses droits en fait en tant que personne transgenre dans les années 40.
Chronique historique.
Est-ce que tu sais, on m'a dit qu'il y avait une
Chronique historique.
C'est des chroniques avec des storiques dedans.
En 1886, Lucy Hicks est née à Sydney Home à Wadi, dans le Kentucky. Ses parents, William et Nancy Lawson, étaient d'anciens esclaves qui s'étaient installés dans la campagne du Kentucky pour élever leurs enfants. Dès son plus jeune âge, elle insiste pour être traitée comme une fille, préférant porter des robes à l'école et se faisant appeler Lucy. Lorsque Lucy a 9 ans, sa mère l'emmène chez un médecin. Le médecin l'examine et décide que l'enfant devrait être élevé comme une fille pour correspondre à son identité sexuelle. Nous sommes donc à la fin du 19e siècle, et oui, et même s'il n'y a pas de mouvement transgenre ou de mots pour parler de cette expérience, on peut trouver des alliés, comme ce médecin. Sa mère accepte. Lucy Hicks Anderson passera le reste de sa vie en tant que femme. À l'âge de 15 ans, Lucy cesse d'aller à l'école et devient femme de ménage. Elle quitte le Kentucky pour s'installer à Pecos, au Texas, et nettoie des chambres d'hôtel pendant une dizaine d'années. En 1920, elle épouse Clarence Hicks et le couple de jeunes mariés s'installe à Oxnard, en Californie. Au fil des ans, Lucy Hicks a continué à travailler comme femme de ménage et a fini par économiser suffisamment d'argent pour acheter une ancienne pension de famille qu'elle a transformée en maison close dont elle était la propriétaire et l'exploitante. L'établissement était situé dans China Alley, un quartier connu pour ses jeux d'argent, ses stupéfiants et ses travailleuses du sexe. Malgré la nature sulfureuse de sa profession, Lucy Hicks est très respectée dans la communauté d'Osnard tout au long des années 20. Reconnue pour ses talents de chef et d'hôtesse, elle organise des dîners et des fêtes extrêmement populaires et remporte des concours culinaires locaux, notamment en 1926 où sa tarte à la crème remporte la première place. Ces dîners étaient tellement demandés qu'ils faisaient parfois l'objet d'un article dans le journal local. Au-delà des mondains locaux, elle a également organisé des événements pour soutenir les soldats partant à la guerre et leurs familles. Plus tard dans sa vie, la presse locale a rapporté qu'elle avait payé environ 50 000 dollars pour soutenir l'effort de guerre à l'étranger. Lucy Hicks faisait des dons généreux à des organisations à but non lucratif, telles que la Croix-Rouge et les Boy Scouts, même si elle disait en plaisantant aux bénéficiaires « ne demandez pas d'où vient l'argent ». Dans les médias de l'époque, Lucy Hicks est décrite comme une femme mince d'un mètre 80 qui portait souvent des robes somptueuses. Un article du Time Magazine souligne ses goûts décadents en matière de mode à l'époque. Elle portait des robes de soie brillantes et décolletées, d'où dépassaient ses clavicules élancées, et elle arborait des chapeaux et des chaussures à talons hauts. Ses perruques étaient sa fierté. Elle en avait une longue, noire et ondulée, une courte, droite et bouclée, et pour les grandes occasions, une rouge jusqu'aux épaules. Malgré le glamour qui a dominé sa vie publique, Hicks a eu des démêlés avec la justice, en particulier à l'époque de la Prohibition. Elle est arrêtée lors d'une opération de recherche d'alcool menée par la police d'Osnard dans tout le comté, pour possession et vente d'alcool. Cependant, le banquier le plus riche de la ville, un certain Charles Dunlon, a payé sa caution parce qu'il figurait sur la liste des invités d'un de ses prochains dîners et que son arrestation aurait retardé l'événement. Et donc c'est pas mal de souligner ici que si l'identité transgenre de Lucy Hicks est restée secrète, elle a atteint un certain statut social au sein de la haute société blanche, ce qui était largement inaccessible à de nombreuses femmes noires de l'époque. Lors d'une autre confrontation avec la police, Lucy Hicks a accusé les adjoints du shérif du comté de Ventura de mauvaise conduite, affirmant que les hommes avaient essayé de les forcer, elle et une autre personne, à avouer des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Dans le journal local, elle affirme que les adjoints ont essayé de lui faire avouer qu'elle avait payé le chef de la police pour pouvoir continuer à vivre à Oxnard. L'article de 27 rapporte que des témoins ont déclaré que les adjoints les traitaient comme des chiens, les injuriaient et les cuisinaient sauvagement. En 29, Lucy Hicks, en femme moderne, demande le divorce à son mari Clarence. À ce moment-là, on perd sa trace dans les journaux et les archives de l'époque. En 44, Lucie épouse Reuben Anderson, un homme qui a travaillé dans un grand magasin de Los Angeles avant de s'engager dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1945, les soldats de la marine sont victimes d'une épidémie de maladies vénériennes et les autorités commencent à enquêter sur les maisons closes des environs, dont celle de Lucie Hicks Anderson. Les enquêteurs forcent toutes les femmes de la maison close à subir des examens médicaux, y compris Lucie. Elle proteste. Elle argue qu'elle n'avait pas elle-même fourni de service aux clients, mais cela ne sert à rien. Les examinateurs ont découvert qu'elle était biologiquement assignée homme à la naissance et son identité sexuelle éclate au grand jour. En tant qu'épouse d'un militaire, elle recevait des chèques d'allocation du gouvernement fédéral. Mais comme son mariage est ensuite jugé illégitime par le tribunal, elle et son mari sont accusés de fraude en 1946. Le procureur du comté accuse alors Lucie Hicks de parjure pour avoir signé une demande de mariage avec un, entre guillemets, autre homme. Au cours de son procès, Lucie plaide sa cause avec passion, expliquant au jury qu'elle avait vécu presque toute sa vie en tant que femme, non pas pour frauder les autres, mais simplement pour être elle-même. Je cite « Je défie tous les médecins du monde de prouver que je suis une femme », a-t-elle déclaré au tribunal. « J'ai vécu, je me suis habillée, j'ai agi comme je suis une femme. Ce n'est que de la malveillance mesquine qui tente de me causer du chagrin et du tort. S'il consacrait la même énergie aux problèmes locaux qui nuisent à la communauté, la situation serait bien meilleure. J'ai vécu une bonne vie et une vie chrétienne et je mourrai femme. » Cependant, le jury la déclare coupable de parjure et un juge la condamne à 10 ans de mise à l'épreuve. Le couple est reconnu coupable et condamné à des prisons fédérales séparées. Comme condition de sa libération, pour éviter la prison, elle est obligée de porter des vêtements masculins. Après leur libération, Lucie et Reuben tentent de retourner dans la maison d'Osnard, mais ils découvrent qu'ils ont été bannis de la ville. Ils s'installent à Los Angeles et continuent à vivre ensemble jusqu'à la mort de Lucie en 1954. Bien que le terme transgenre ne soit entré dans le langage courant que 15 ans après sa mort, Lucie Hicks Anderson a été une pionnière en matière de visibilité et de sensibilisation à l'expérience transgenre. Elle est généralement considérée comme la première personne à avoir défendu son identité de genre et son droit au mariage devant un tribunal américain. Et voilà.
Waouh, wow, ouais, la classe.
Trop badass.
Ouais, sacrément badass. Et puis j'aime bien, elle a plein de personnalités, plein de facettes en tant que... super hôtesse et championne de tarte à la crème et mère maquerelle et
j'aurais adoré que ce
philanthrope.
Soit ma copine.
Quoi ?
J'aurais adoré que ce soit ma copine.
Ouais, elle avait l'air cool. Et j'étais très contente de la trouver. Moi, je vais de site en site. Des fois, je passe d'une biographie à l'autre. Et je trouve que c'est beaucoup plus difficile, en fait, de trouver la trace de femmes transgenres que d'hommes transgenres dans le passé. Mmh. Aussi parce que beaucoup plus de personnes assignées femmes à la naissance se travestissaient pour, pas forcément pour leur identité de genre, mais aussi pour être tranquille, en fait, pour faire le métier qu'elles voulaient, que des hommes, enfin, que des personnes assignées hommes. Et aussi, c'est beaucoup plus difficile, en fait, de trouver de la documentation sur des personnes issues de milieux sociaux défavorisés ou de personnes noires. Et donc, c'est aussi important de retenir que, en fait, elle s'est élevée, en fait, à un autre milieu. Elle était reconnue par sa communauté. Il y avait plein d'articles de journaux. Et donc, c'est possible, c'est facile de retrouver sa trace, quoi. Mais c'est pas, enfin. Mmh.
Mais en tout cas, ça dit que bah, la transidentité existe depuis toujours.
Enfin, ouais.
On le sait, mais il y a des traces historiques sur ça et bien avant l'invention du terme,
ouais.
Et qu'il y a sûrement plein d'autres histoires en fait qui n'ont pas été retranscrites et qui existent aussi, quoi.
Ouais. Et aussi, c'est difficile en fait. Bon, là, c'est sûr, il y a peu d'ambiguïté avec les sources de dire que c'était une femme transgenre, mmh. Mais souvent, c'est aussi un peu anachronique de mettre un terme. Sur l'identité d'une personne. Mmh. J'avais entendu il n'y a pas longtemps que des personnes imaginaient que Jeanne d'Arc était genderqueer. Mais bon, on ne le saura jamais en fait. Mmh. Mais bon,
sûrement
de spéculer.
Sûrement.
Ouais.
Mais en tout cas, tous les tétraqueurs boomers qui disent que c'est un effet de mode, la question du genre,
ouais.
Voilà, dans votre face.
Mais moi, j'aime bien cette comparaison qui disait qu'à partir du moment où on a arrêté de réprimer les gauchers, eh ben, il y avait une explosion de gauchers.
Mm-hmm.
Et après, ça s'est stabilisé. Mais donc, c'est pas que tout d'un coup, c'était cool d'être gaucher, c'est juste que tu pouvais l'être sans trop problème. Ouais. Et je trouve qu'on peut faire la comparaison, même si, bien sûr, ça n'a rien à voir, que c'est sûr que maintenant que Yale sont plus visibles, c'est pas sûr d'ailleurs de dire que Yale sont plus sûrs
du tout.
Mais que on voit plus d'histoires, on entend plus d'histoires et il y a plus de personnes qui font leur coming out, ce qui est logique en fait.
Et c'est intéressant de voir aussi l'histoire avec le médecin au début, et puis les deux hommes avec qui elle a été. Elle aurait pu à plein de moments en révélant dans l'intimité ou dans des cadres, voilà, médecin, intimité, le fait qu'elle était une femme trans, être outée malgré elle, contre son gré. Et en fait, ça, à aucun moment, c'est ça qui se passe. Quand elle est affichée contre son gré, c'est à cause de la police, en fait.
Ouais, carrément.
Donc, ça, je trouve que c'est intéressant de se dire aussi qu'il y a toujours eu des personnes qui n'avaient pas visiblement pas de problème avec ça, quoi.
Ou des alliés aussi.
Des alliés, voilà.
Ouais. Et puis,
amoureux, et voilà, et une vie possible.
Ouais, et puis on a plein de biais, plein de clichés sur l'histoire en pensant que fin 19e, une famille de paysans noirs, il n'y a pas moyen, et en fait. Pourquoi pas, quoi.
Trop intéressant.
Est-ce qu'on s'écouterait un petit quelque chose?
Bah oui, si vous voulez. On va écouter Mama Aglia Orchestra avec Teyoubes.
Qu'on va retrouver le 14 mai à Nas Monique.
Hey. Yop. Te aștept noapte și zi, oh, oh, iubirea veții mele. Știi că tot a mea vei fi, oh, iubirea veții mele. Ai avut timp să gândești, oh, iubirea veții mele. Știi că și acum mă iubești, oh, iubirea veții mele. Și zi, oh, iubirea veții mele. Știi că toată a mea vei fi, oh, iubirea veții mele. Ai avut timp să gândești, oh, oh, iubirea veții mele. Știi că și acum mă iubești, oh, iubirea veții mele. Și ziua, oh, iubirea veții mele. Știi că toată a mea vei fi, oh, iubirea veții mele. Ai avut timp să gândești, oh, iubirea veții mele. Știi că și acum mă iubești, oh. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Fără tine nu trăiesc. Te ador, te ador, te ador. Fără tine simt că mor.
L'ordre se complète dans l'hétéronormalité. Le désordre se complète partout ailleurs.
Il y a eu un petit bug, pardon.
Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé?
On
n'était pas à l'antenne.
Non, je crois que j'ai superposé un morceau de musique avec le jingle. J'aurais dû rien dire, vous avez
bah oui, t'aurais pu dire que c'est une transition de, ouais. De chef.
C'était un remix.
Oui.
Alors, Samy, t'es l'habitué des émissions, mais là tu viens... pour parler de ton expo et de photos.
Ouais. Alors, vu qu'on a un peu de temps, ça fait un an que... Enfin, la photo m'a toujours accompagné depuis que j'ai 18 ans. Et j'en ai fait un peu avec un appareil, et puis après j'en ai longtemps fait avec mon téléphone. Et il y a un peu plus d'un an maintenant, mes copains et ma famille se sont cotisés pour que j'ai un chouette appareil photo. Maintenant, c'est mon petit bébé. Et la photo prend de plus en plus de place. Et donc, j'ai plutôt tendance à aller photographier les artistes sur scène. C'est ce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi photographier les manifestations. Et puis, il y a presque un an, j'ai eu l'idée d'un projet sur les identités. Et ce projet en fait consistait à aller chez des personnes queer qui sont pour la plupart des copaines pour aller photographier leur moment de préparation après le réveil le matin ou le soir avant de sortir faire la fête et ce que je voulais visibiliser en fait c'est un peu cette créativité qui existe dans nos communautés pour construire nos identités, nos masques sociaux et l'image qu'on veut renvoyer en fait à l'extérieur. Et donc, en fait, je suis allé chez 8 personnes pour aller les photographier au matin. Et c'était assez chouette. Et donc, ce projet, je l'ai fait. Et puis ensuite, je l'ai un peu présenté. Je l'ai présenté dans Quif. Qui est un média d'artistes queer belges. Et après, je l'ai présenté aussi sur BX1. Et ensuite, il y a la Vénerie à Watermael-Beaufort qui m'a contacté pour me proposer d'exposer ses photos au mois de mai, là, qui arrive dans le cadre de la Pride.
Du mardi 9 mai au vendredi 26 mai.
Exactement. Et il y a un petit apéro, une sorte de vernissage un peu officieux qui se fait le 10 mai à la Vénerie. Ce sera un peu l'inauguration. Et le 11, dans le cadre de ce festival, il y a aussi le show playback présenté par Blanquette Lagoulou qui se fera là-bas.
Que t'as photographié
Oui, j'ai photographié. On m'a pas du tout demandé de faire des photos, mais j'avais Mika Rambar, un artiste qui est un très très bon ami, qui venait de Toulouse, et donc en fait j'ai apporté mon appareil avec moi et j'ai fait quelques photos là-bas aussi au dernier. Voilà. Et donc, j'avoue que c'est un peu ce projet date, et donc je suis assez critique sur mes photos et sur la construction du projet en lui-même. J'ai eu un peu de mal à mettre l'impression de ces photos-là. Et puis, j'ai ma coloc John qui, quand je choisissais les photos, en fait, j'étais là, j'étais devant mon ordinateur, je m'arrachais les cheveux, je me disais, oh, je vais devoir exposer ces photos. C'est la première fois que, j'expose des photos pour que les gens voient mon travail en dehors des réseaux sociaux.
Non, c'est la deuxième fois.
C'était où la première?
Près de Isère, là.
Oui, mais ça, c'était une photo faite avec mon téléphone.
Ah oui.
Donc, là, c'est des photos.
Ton attaché de presse.
Merci pour ça. Et là, les photos vont être imprimées sur du 55 centimètres, ce qui est énorme. Et je les ai pas encore reçues. J'ai hâte de les voir, en fait, de les voir entre mes mains. C'est la première fois que j'imprime sur aussi grand et sur un matériel. Je les imprime sur de l'aluminium. Et donc, ça va me faire bizarre d'avoir ces photos entre mes mains. Et de les faire voir aussi, et sachant que moi je suis hyper critique dessus, en fait j'étais là, j'arrivais pas à choisir ces photos-là, et puis ma coloc m'a dit, Samy, en fait tu veux être photographe, et t'es photographe, et à un moment, il faut bien que tu commences quelque part, il faut que tu fasses voir ton travail. Et donc, même si c'est pas top, et que ton travail a progressé, il faut que tu le fasses voir, il faut que tu fasses voir ton travail.
Mais elles sont pas top. Moi, je les ai vues, elles sont très belles, tes photos.
Oui, je suis un peu exigeant.
Même si je suis pas photographe et que je suis pas capable de voir.
Et puis ça, les gens savent pas s'ils ont, enfin, voilà. Ça, c'est ce que tu vois de ton travail, mais ouais. Ça dit quelque chose d'un moment donné.
Ouais.
Tu l'as fait et de qui t'étais à ce moment-là.
Ouais,
ça parlera forcément à des personnes qui sont peut-être au même endroit que là où t'étais.
Et puis ça apporte quelque chose d'énorme, le fait que ce soit des copaines que t'as pris en photo, parce que c'est quand même un moment hyper privilégié, hyper intime que tu saisis.
Mm-hmm. Et est-ce que t'aurais pas envie de faire un petit moment de teaser ou brève audio description de certaines des photos?
Alors, je peux
sans vouloir te prendre de cours, bien sûr.
Non, pas du tout.
Exercice juste...
Par exemple, on voit une personne devant. Moi, j'ai celle-là qui est présentée par.
Alors, celle-ci, c'est la photo qui est utilisée pour présenter l'expo. C'est Vera Moreau, qui est une DJ. Queer de Bruxelles et donc Vera Moreau est devant son miroir et est en train de se plaquer les cheveux derrière la tête, mais c'est pas une photo qui sera exposée.
Ah oui.
Parmi les photos qui vont être exposées, je pense qu'il y a Baxter qu'on connaît très bien, qui vient régulièrement sur Chronique Mutante et qui va être exposé. Alors là, on est sur... j'aime beaucoup les reflets dans le miroir, en fait. Je me rends compte, c'est un truc qui me fascine énormément, de prendre les gens dans des miroirs. Et donc, Baxter est devant son miroir, en train de se maquiller les yeux. Et je sais mal décrire, il a les cheveux bleus. Et il est devant, en fait, son attendez, je vous la fais voir.
Donc,
à vous les éditeurs.
Et tu donnais des indications, tu t'adaptais à la personne pour entrer dans son...
Comment ça se passait? Moi, ce que j'aime bien faire dans mon travail, c'est je ne suis pas très fan des gens qui posent devant moi, parce qu'ils me voient trop.
Mm-hmm.
Et ils
performent aussi. Enfin,
oui. Ouais. Et déjà, en fait, guider les gens, en fait, ça ne m'intéresse pas. Après, c'est chacun son truc. Hein. Mais moi, ce n'est pas trop mon truc. Je suis plutôt un chasseur d'images, en fait. J'aime prendre les moments. Je suis un peu, ouais, je capture les moments.
Et du coup, tu dois un peu t'invisibiliser auprès de tes entre guillemets sujets, quoi.
C'est ça. Donc à chaque fois que j'allais chez une personne, quand je suis allé chez Baxter, quand je suis allé chez Vera, j'ai pris le temps de prendre un café d'abord avec. Déjà d'une, c'était le matin. Et puis je réexpliquais le projet, et puis je leur demandais si c'était toujours ok, en fait, pour ces personnes-là, que je prenne des photos, et ça participait à ce que, à la fin, je disais, voilà, en fait, tu vas te préparer, fais comme si j'étais pas là, tu oublie-moi et fais comme d'habitude, en fait, et ça marchait assez. Enfin, j'ai pas l'impression que les personnes que j'ai photographiées n'ont pas... J'ai pas l'impression qu'elles posaient, en fait, pour moi, mais qu'elles étaient dans leur routine. Il y a une personne, par exemple, Andy, qui va être parmi les photos que j'expose, qui est venue chez moi, parce qu'en fait, il habite avec sa famille, c'était compliqué que j'aille chez lui. Et donc, il est venu se préparer chez moi, il est arrivé pas maquillé, quasi en pyjama. Et donc, il m'a demandé s'il pouvait mettre du gros son, et il a mis du gros son. Et j'avais clairement l'impression d'être complètement invisible, ce qui était incroyable, parce qu'il chantait devant son miroir. Enfin, c'était vraiment... j'étais vraiment dans sa morning routine, quoi.
Et c'était particulièrement des artistes ou parmi tes amis
Non, on dit c'est pas une personne artiste. Qui sait que j'ai d'autres qui va être exposé. Je sais plus qui sera sur mes photos. J'ai oublié les photos que j'ai sélectionnées. Mais il y a des artistes et des gens qui sont pas artistes non plus.
Et là, la photo avec King Baxter. Du coup, on voit une masse de cheveux bleus,
oui,
un peu flous, avec une main un peu floue, avec les ongles noirs. qui tient un crayon, une petite houppette, et on voit le visage dans un miroir rond qui se sourit à lui-même avec un regard attentif et un petit sourire, voilà, en coin comme ça, pas mal concentré, et le tour des yeux qui commence à être un peu orange. Et à côté du miroir, on voit d'autres miroirs, donc il y a une sorte de perspective de petits miroirs, un en plastique, un rond grossissant, un plus grand, et un paquet de mouchoirs, une autre houppette et des bocaux. Voilà, et il y a une lumière assez blanche du matin, comme ça.
Voilà. T'es meilleur que moi pour décrire des photos.
une autre.
Non, mais par exemple,
il vaut mieux les voir.
Il y avait Queen aussi que j'ai photographié. Queen, c'était assez drôle parce que je suis arrivé chez elle. Elle se lève super tôt. Et donc, je suis arrivé chez elle à 7h du matin et elle habitait pas du tout à côté de chez moi. Et j'ai pas l'habitude de me lever aussi tôt. Et je suis arrivé, j'avais vraiment la gueule dans le cul. Et elle, elle était super en forme. Et pendant que je la photographiais, elle me parlait. Et puis, comme si j'avais pas d'appareil photo dans les mains. Et donc, c'était assez incroyable. Et elle enchaînait comme ça, elle me parlait. Et moi, j'étais à peine réveillé. C'était un très chouette moment. Et la lumière était incroyable aussi. Et voilà. Et je sais pas, je sens que ce projet, je me réfléchis en pourquoi, en fait, pourquoi moi je suis allé vers ce projet-là. Et je pense que c'est parce que j'ai choisi des personnes qui sont assez créatives, en fait, dans leur préparation. Et c'est toujours des personnes que j'ai toujours admirées. Parce que moi-même, en fait, cette créativité dans ma façon de m'habiller, la question du maquillage, etc., c'est des choses en fait qui m'ont toujours attiré, mais que j'ai jamais vraiment osé. Et je crois que le fait de, j'ai beaucoup apprécié en fait à aller dans ces moments-là, parce que je trouve ça incroyable, le fait d'oser en fait travailler son look et se mettre des looks qui sont pas en accord en fait avec la vision que la société a de nos genres et de nos identités. Et voilà.
Trop hâte d'aller voir, en tout cas.
Merci.
Merci.
Et du coup, tu disais que ta pratique, elle a vachement évolué. Qu'est-ce que tu fais maintenant que tu faisais pas avant, ou s'il y a d'autres sujets qui t'intéressent?
Je crois que je me concentre beaucoup plus en fait sur la photographie d'artistes sur scène, et ce que j'aime mieux, ce que je préfère beaucoup et qui m'inspire beaucoup plus, c'est les backstage des artistes. J'adore faire des photos dans les backstage.
Donc toujours des gens qui se préparent.
Ouais,
ou qui se dépréparent.
Ouais. Bah oui, les deux. Je prends plutôt les gens qui se préparent en général, mais j'ai jamais eu l'occasion de prendre les gens qui se dépréparent. Parce que,
ou alors qu'ils soufflent après leur performance.
Ouais. Un moment très naturel avant que tu mettes un masque.
Ouais, complètement. Et voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à mon travail. Ah oui, aussi, je trouve qu'il y a aussi la technique au niveau de mes photos. Je trouve qu'elles sont réussies, mais il y a beaucoup de photos où, au niveau des cadrages, je trouve qu'en fait aujourd'hui je fais beaucoup plus attention à certaines choses, etc. Il y a pas mal de photos pendant ma sélection où j'étais ici c'est coupé, aujourd'hui je trouve pas ça normal, et avant j'y faisais pas attention. Je suis beaucoup plus attentif à la technique aussi de la photographie.
Et t'as une formation, t'es autodidacte?
Je suis autodidacte. Il y a très longtemps, j'avais pris un cours de photo plutôt technique. J'avais pris un cours de photo aussi de street photo, mais ça c'était 2 journées. Et quand j'ai reçu mon appareil, j'ai pris un cours pour apprendre à le manipuler, mais sinon j'apprends tout seul.
Et t'es passé de amateur à professionnel, parce que maintenant t'as de plus en plus de demandes. Ouais.
J'en fais mon métier maintenant. Je quitte mon travail et je vais me concentrer sur la photo.
Bravo.
Merci.
Trop bien.
Ça me fait penser juste aussi à l'idée d'archives dont on a parlé plusieurs fois, mais c'est vrai que juste en fait faire des photos et les montrer aussi, enfin pas juste les garder dans ses cartons et les montrer, c'est déjà d'un, je sais pas, un acte militant puissant, surtout pour représenter des communautés voilà, qui sont marginalisées et invisibilisées aussi.
Tout à fait. J'attache énormément d'importance à la question de l'archive. Je suis pas mal en contact avec Lou. On n'a pas encore eu l'occasion de travailler ensemble parce que Lou est un photographe queer de Bruxelles qui travaille beaucoup en fait sur ces questions d'archives. On doit se voir parce que je commence à avoir pas mal de contenu entre les manifestations. Je photographie des manifestations queer où j'ai beaucoup photographié aussi à un moment les manifestations pour la justice des personnes racisées assassinées par la police. Et ça, en fait, c'est pas... Je garde ces images sur mon disque dur et j'aimerais pouvoir, en fait, à l'avenir, faire quelque chose, en fait, avec toutes ces images parce que ça fait partie de l'histoire, en fait, de Bruxelles. Et oui, des photographes, j'ai photographié la deuxième manif transinter de Bruxelles récemment. C'est des archives aussi. Toute la scène bruxelloise, performeuse, drag, etc. C'est aussi en fait l'histoire de Bruxelles qu'il faut documenter et qui pourra servir pour plus tard aussi.
Oui, carrément. Et si vous, ça vous intéresse aussi personnellement d'archiver ou la question vous intéresse, tous les derniers mercredis du mois à Nasmonique, il y a une permanence archive avec Lou et Loïse qui travaillent là-dessus, sur les archives de Nasmonique, mais de façon plus large aussi sur la communauté, quoi.
Mm-hmm. Apparemment, là, au cinéma, en ce moment, il y a un super beau documentaire que j'ai très, très envie de voir sur Nan Goldin, et justement la dimension politique de son travail et d'archives. Et j'ai une amie qui m'en a parlé et qui m'a dit que c'était vraiment super. Ben moi, je suis une grosse fan de Nan Goldin. J'ai tout très, très envie d'aller le voir.
Tout le sang versé ou quelque
chose
comme ça.
Oui, c'est ça. C'est tout le sang versé, ouais. Mm-hmm. Mm. Donc, ouais, je me dis, ça a un lien. Donc, je le dis.
Et à tout hasard, est-ce que tu as d'ores et déjà d'autres projets d'expo à venir ou...
Non.
Ok, mollo, quoi.
Mais c'est la Vannerie qui est venue te chercher.
Oui.
Et
avant, j'avais proposé mon projet à deux appels à projets pour des expos et il a été refusé. Je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça m'a rendu un peu critique sur mon travail. Ces refus, c'était un peu difficile, mais bon, ça fait partie de la vie. Hein.
Et puis, ça fait partie de la vie, mais surtout des métiers artistiques.
Oui,
tout à fait. Genre, ça fait partie même du métier de gérer les refus.
Mm-hmm, tout à fait. Parfois, qui ne sont pas justifiés en plus.
Oui.
Donc tu te retrouves avec ce refus et tu te dis pourquoi et tu fais plein de films dans ta tête en disant de toute façon c'est de la merde ce que je fais.
Et puis aussi il faut dire que la photographie c'est vraiment le médium en ce moment aussi avec les réseaux sociaux, c'est quand même les images qu'on voit le plus.
Tout à fait.
C'est vraiment la photo. Mm-hmm. Et il y a énormément de choses très bien et aussi des trucs tout et rien évidemment. Mais c'est vrai que du coup c'est plus compliqué je pense pour un appel à projet s'il y a beaucoup de monde dessus quoi.
Oui, ouais, complètement.
C'est pas une niche quoi.
Et sinon, en plus, je crois pas que je cours après les expos. C'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement. Après, si on me propose une autre expo et que l'idée de l'expo me plaît, pourquoi pas. Mais c'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie de me concentrer.
Mais du coup, on peut voir ton travail où ça à part la Vannerie.
Je mets mon travail sur Instagram. Mon nom d'Instagram, c'est Sam. Photographe et j'ai un site internet aussi, c'est www.samisouci.be, SAMYSOU2SI. Voilà.
Okay.
Et je concentre plutôt mon énergie sur la photographie d'événements qui ont lieu dans nos communautés.
Super.
Merci. On s'écouterait un petit morceau.
Oui, tout à fait. On va écouter Blanco Teta avec Hoy No. Blanco Teta qui est passé notamment à Nasmonique l'été dernier, un groupe colombien, et qui prépare une nouvelle tournée en Europe cet été. Très bien. Hop. Est-ce que ça marche difficile ici.
Alors, Margot, tu vas nous parler d'un livre.
Oui, alors, je vais faire une. Donc, c'est un livre de Justine Nogret, deux livres en réalité, qui se suivent et qui racontent une histoire qui est terminée après le 2. Hein, donc, ce n'est pas une série avec plein de livres. D'ailleurs, ils sont assez courts, les deux. Et donc, c'est une autrice que j'ai découvert il y a 3 ans, je pense, maintenant. En tout cas, le premier livre, je l'ai lu il y a 3 ans. Après avoir été vraiment hyper déçue et voire très en colère. Après avoir lu un livre qui s'appelle Gagner la guerre de Jaworski, ben, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui adorent, mais moi ça m'a mis un peu mal, surtout qu'on m'en avait énormément parlé. C'était un livre d'heroic fantasy, écrit avec. Enfin, c'est un auteur, c'est un mec hein, qui a écrit, un mec cis, qui a écrit un bouquin d'heroic fantasy. C'est écrit en français, donc c'est pas une traduction. Et moi je cherchais un peu à lire justement des textes avec vraiment une écriture et qui soit pas traduite et qui soit dans ces univers. Voilà, un peu moyenâgeux là, avec parfois de la magie, parfois pas, mais voilà, j'avais vraiment envie de lire ça. Et donc là, tout le monde disait l'écriture est incroyable, vas-y, vas-y. Et en le lisant, j'ai été vraiment horrifiée par le degré de misogynie, de grossophobie, d'homophobie. Enfin voilà, tous les trucs en « i » comme ça à la fin étaient présents dans le texte un peu en permanence. Et on était dans la tête d'un pur anti-héros, très très méchant, et qui n'était jamais remis en question et qui commet des atrocités pendant tout le bouquin. Sans aucune raison, voilà, donc c'était assez atroce. J'ai pas pu le terminer, ce qui m'arrive jamais quasiment. Et là, je me suis dit, ok, je vais faire des recherches pour trouver des autrices qui écrivent en français de l'heroic fantasy, qui nous parlent un peu d'autre chose en fait. Et je suis tombée plusieurs fois sur Justine Nogret, qui a écrit, donc c'était son premier roman, comment ça s'appelle ? Chien du Home, du coup, le premier. Chien comme un chien, du home comme le casque en métal de croisée, voilà, ou de chevalier. Et donc j'ai lu ce livre, très court, hyper intense, avec une écriture assez magnifique, enfin vraiment moi j'étais bluffée, et avec une héroïne qui est une femme de plus de 40 ans, donc autant dire qu'au Moyen-Âge c'est déjà bien vieux, et qui n'est clairement pas une bombe, ou en tout cas elle n'est jamais décrite comme telle, mais pas non plus décrite comme... quelqu'un de pas beau ou quoi, mais c'est vraiment qu'on est, on sort complètement des habitudes de description des personnages féminins et même des guerrières qui parfois dans les rues fantasy sont hyper sexualisées quand même si elles sont badass. Donc là on a vraiment un autre profil de personnage qui est une mercenaire qui a oublié toute son enfance et qui a oublié son nom et tout le monde l'appelle chien et elle va voyager et partir à la recherche de son nom. Alors elle manie la hache comme personne, elle est hyper voilà, hyper violente contre ses ennemis, et elle et en même temps, c'est un personnage hyper beau, hyper sensible, et elle va partir, voilà, mener l'enquête. Elle a un dessin sur sa hache qui lui dit que là, il y a peut-être quelque chose à chercher, elle va chercher le forgeron qui a forgé sa hache. Et elle part comme ça, donc dans un univers vraiment purement heroic fantasy, donc on est dans un... c'est plutôt en France, période médiévale, pas vraiment situé, on n'a pas du tout l'intervention de magie, mais on suit ce personnage et on est un peu, on est dans sa tête et c'est clairement un personnage traumatisé qui a un blackout, qui ne sait pas vraiment pourquoi. Elle sait juste qu'elle a tué son père, elle ne sait plus vraiment pourquoi non plus et elle part à la recherche de son nom. C'est vraiment très très beau. Et là j'ai lu le second et je me suis dit ok, c'est encore mieux. Là j'étais vraiment, je pouvais plus m'arrêter, je lisais au petit-déj, mais et je faisais des « Oh mon Dieu !» en le lisant. Enfin, j'étais vraiment très expressif, parce que c'est très violent aussi. Donc il faut dire qu'il y a des petits moments où on est un peu dégoûté. Mais j'ai lu le deuxième qui s'appelle « Mordre le bouclier ». Et là, c'est toujours l'héroïne chien, qui n'a pas trouvé son nom forcément tout de suite. En tout cas, elle aime bien ce nom chien. Et on la suit, elle est dans un château. Un château vraiment perdu, vraiment un endroit où il fait pas très bon vivre, mais elle aime bien quand même. Et elle rencontre une autre femme qui s'appelle Breir. Elles ont maintenant entre 50 et 60 ans, ces deux-là. Et elles vont partir, cette fois-ci, dans la quête de vengeance de l'autre personnage qui s'appelle Breir. Sachant que Chien a perdu des doigts, donc elle est une personne handicapée, clairement, pendant le roman. Elle peut à peine tenir sa hache. Et l'autre personne, Breir, a le bras complètement tordu et pris dans un espèce de dattel en métal où elle peut fixer des lames au bout. Donc c'est assez inquiétant, quand même. Et elles vont partir toutes les deux. Et sur leur chemin, elles vont faire des rencontres, mais surtout, elles vont parler. Et c'est vraiment une sorte de catharsis et de lien hyper beau qui va se faire entre elles. Franchement, il y a une grâce dans l'écriture assez dingue. Et puis, j'ai jamais vu des scènes de bataille. Et surtout, enfin, c'est pas vraiment des batailles comme des grandes batailles héroïques. Là, on est dans du corps à corps de femmes qui se défendent donc c'est, et qui se vengent de trucs vécus, notamment de violences des hommes, en fait. Hein. Donc, c'est quand même très, très cathartique. Et moi, j'avoue que ça m'a fait énormément de bien. Voilà, j'étais là, ah, merci de le faire pour moi, vraiment. Et voilà, j'ai trouvé ça très, très beau. Et j'ai pleuré plusieurs fois. Enfin, vraiment, c'est très rare que je sois... Enfin, non, pas très rare, mais là, quand même, émotionnellement aussi prise par un récit avec des couvertures atroces à chaque fois. Et vraiment, pas du tout à la hauteur du livre. Je vous préviens que les couvertures sont vraiment assez moches et qu'il faut pas s'y fier du tout. Voilà. Et j'avais envie de vous lire un petit passage. Alors, il y a deux passages, j'hésite, donc je vais demander aux autres de décider.
Ok.
Il y a un passage où elles sont en train de discuter toutes les deux. Et Chien lui pose une question à propos d'un forgeron qui était amoureux de Brehir et lui pose la question de bah, pourquoi tu n'es pas resté avec ce type. Et elle va répondre. Donc c'est en fait un passage assez étonnant pour parler des relations amoureuses dans un texte qui est censé se passer au Moyen-Âge. Et un autre passage que je trouve narrativement hyper, hyper intéressant, hyper puissant, c'est vraiment le début d'une scène de vengeance avec Brehir. Donc, avant tout le moment évidemment horrible. Hein. Là, c'est vraiment la course-poursuite où elle poursuit un gars et c'est raconté avec une espèce de finesse comme ça, je trouve, assez belle.
Moi, j'ai l'impression que tu préfères le deuxième.
Je préfère le deuxième, mais je trouve que l'autre, il a du sens dans une émission queer féministe aussi, pour ça.
Ouais, mais une histoire de vengeance...
Ouais, c'est stylé aussi, en fait.
C'est stylé. Hein. Et ça aggrave sa place dans une émission queer féministe.
C'est clair, ça nous anime tous.
Bashback.
Ouais, donc je vais vous le lire, c'est très très beau. Donc c'est Brehir, la guerrière, qui est dans une taverne avec Chien. Et elles sont toutes les deux en train de boire un coup, se poser, après vraiment avoir passé un sale moment sous la pluie. Et là, Brehir, elle a clairement un coup dans le nez. Et au lieu de la rendre complètement... je sais pas, incohérente, elle va avoir une forme de lucidité avec l'ivresse qui va lui faire dire son histoire et raconter son histoire à toute la tablée qui sont quasiment que des hommes et voilà, et à faire un peu peur à tout le monde avec son niveau de rage quoi, et donc c'est assez intense. Et donc là, elle vient de parler d'un moment de son enfance et elle raconte la poursuite, le jour où elle a tuer un homme dont elle se vengeait. J'étais jeune encore quand je l'ai achevé. Mes cheveux avaient toujours leur couleur. Je l'avais poursuivi sur un simple chemin creux puisqu'il avait appris que je venais sur ses terres et qu'il avait eu le temps de fuir. Je l'ai rattrapé un soir. Il était gluant de pluie et de sueur. Je ne l'avais pas touché, mais je le voyais bien. Il avait ses gouttes grasses au creux du cou, en grappes sous les cheveux collés. Il y avait la crainte au fond de ses yeux. Lui aussi se souvenait du jour et de la fête du bouc suspendu dans l'air, le temps d'un battement de cœur, et que ce simple instant, plus court qu'une respiration, avait fait passer mon existence dans la folie et la sienne dans la terreur. Il savait que je le trouverais, il l'avait redouté toute sa vie. Mais si j'avais été morte à pourrir dans un fossé, il aurait encore tremblé de ma lame et de ma main. Il savait que ce qu'il avait commis, il en avait conscience. Il s'est retourné, il a crié « Qui es-tu ?» comme si j'allais donner un nom qui expliquerait tout. Et sa fuite, et ma présence, et sa terreur, et ma haine. J'ai répondu, je ne suis personne, je n'ai jamais été personne, et c'est tout de ta faute. Aujourd'hui, je viens me payer. Me payer sur la bête, je voulais dire, comme font les chiens qui dévorent et arrachent. Voilà tout ce que je souhaitais, et je ne m'en étais jamais rendu compte avant ce jour sombre. Je voulais tous les manger et leur faire assez peur pour tuer l'humain en eux. Ouvrir cet être en deux et y plonger ce qui me sert de visage lorsqu'il devient folle. Je viens me payer, je l'ai répété, et il a commencé à courir. Je voyais le brin de ses semelles apparaître et disparaître dans la nuit tombante. Je cours mal, mon corps n'a rien de mon esprit. Ce dernier sait voir loin et se forcer à l'aventure, mais l'autre ne connaît rien de l'endurance. Il se contente de faire et d'ensuite être fatigué à en crever. Il ne s'est mis des chemins qui n'en finissent plus. Ma chair est morte, mais je ne lui ai jamais laissé la prendre. Et je savais que l'homme courait avec la peur collée au dos comme une chimère de plomb et que cette passagère-ci est lourde, si faite d'un poids capable de briser les os. Surtout, il voulait que je le rattrape. Ses tripes hurlaient sa propre haine de lui, hurlaient son dégoût et sa terreur d'avoir emporté une enfant sonne comme on vole un paquet ou un tas de viande, avec encore dans les yeux le sang monté en fleurs du cou de son père. Quelque chose voulait demander pardon et ma propre volonté de le peler comme un fruit lui était entrée dans la cervelle. je savais qu'il s'y plierait. Parfois, les bestes que l'on chasse se couchent d'elles-mêmes sur la mousse, elles tendent la gorge à la lame. Elles pleurent, je l'ai vu de mes yeux. Et pourtant, elles se soumettent et meurent sans combattre. Cet homme était de celle-ci. J'avais un mépris de lui aussi profond qu'un gouffre à ce moment même. Je les hais tous, je les hais toujours et encore, et leur mort n'y a rien changé. Mais lui, en le voyant respirer, en entendant son pas, j'avais une nausée au goût de sang dedans la gueule. Je ramassais des pierres sur le sol et je les lançais vers ses pieds qui disparaissaient dans l'obscur. J'entendis des chocs, certains contre la chair et un gémissement terrorisé. Le chemin creux se refermait comme il sait le faire lorsque la nuit s'y coule, comme une feuille mouillée, mise à côté du feu. Si fait, elle se gaufre sur elle-même et se clôt à la façon des coquillages. La route était une cheminée couchée, un tubule, et nous nous y enfoncions. Nous avancions vers le foyer, lui serait le combustible et moi le brandon qui ferait disparaître le tout. Je suis passée devant et je ne l'ai vu qu'au hasard d'une lumière d'étoile, un éclat de lune, une brume blanche qui a fait luire son visage. Il s'était enfoncé entre des racines à nu, roulé en boule, les mains sur la bouche et les yeux comme s'il était à nouveau marmoussé, terrorisé, et moi, un cauchemar dont il fallait attendre la dissipation. On aurait dit c'est l'apro lové au creux des herbes, sans odeur ni passion, attendant là, dense comme des pierres, le retour de leurs parents, cachés des goupilles par leur seule immobilité. Je haletais, je m'étais arrêté devant lui, respirant mal, le cœur battant trop fort, les jambes prêtes à l'élan, si jamais il tentait de fuir à nouveau. Il ne le fit pas. Il leva simplement les yeux sur moi, glissant comme des graines lisses et brunes entre les pales de ses doigts. Je lui ai dit de sortir. Il a tremblé du menton comme s'il s'était fait prendre à voler un biscuit. Il a secoué la tête, faisant nage sans oser me le dire. Wow. Et après, il y a encore deux pages de description, et après, c'est beaucoup plus atroce, hein, je vous le dis quand même. Il faut être en forme pour le lire. Voilà.
Ah, merci.
Merci.
J'étais avec plaisir. À fond dedans, quoi.
Ah, mais c'est très très beau. Hein,
ouais, haletant et très satisfaisant.
Oui, hein. Mais y a vraiment...
Et très beau, enfin, c'est très joliment raconté.
Et ce qui est assez. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est surtout qu'on est vraiment. On s'attache, les personnages sont très émouvants et très incarnés. C'est pas du tout juste des figures, quoi. C'est des personnes qu'on a l'impression de rencontrer vraiment, quoi. Voilà.
Eh bien, il est 58. On va bientôt vous quitter. Je sais
Est-ce
si,
que vous vouliez faire évoquer des dates d'agenda vite
fait. Des choses qui se passent.
Très rapidement. En ce moment, il y a le cabaret de Lily Bess qui s'appelle Hippocampe, qui se joue au Varia. J'y suis allé hier soir, ça vaut le coup d'aller voir. De voir l'art queer avec des moyens et dans l'institutionnel, c'est plutôt chouette. Il y a encore une représentation mardi et mercredi prochain à 19h. C'est complet, mais il me semble qu'il est possible d'être mis sur liste d'attente si on vient assez tôt. Et après, notez pour la semaine du 1er mai, c'est le Porn Film Festival qui va débuter à Bruxelles.
En même temps que le Snap, c'est ça ?
En même temps que le Snap, oui. Et donc peut-être qu'on pourra plus en parler le week-end prochain.
Oui, ça commence quand, le premier?
C'est dans la semaine. C'est dans la semaine du 1er mai. Est-ce que ça commence exactement? J'ai pas la date précise. Désolé.
Et ce vendredi à 19h, il y a le drag show de la Baraka King à Nasmonic. Donc ils ont déjà fait plusieurs spectacles et c'est le feu, quoi. Ils mettent le feu à Nasmonic. Le 1er mai, d'ailleurs, toujours à Nasmonic, il y aura une balade vélo entre queer proposée par Thaïs, qu'on embrasse, qui vient parfois nous faire des coucous. Et ce sera une balade à vélo vers Gazbeek, en mixité choisie, de 30 km, mais à allure modérée en fonction des besoins. Et rendez-vous à partir de 10h30.
Hein ? Voilà.
Voilà.
Eh bien, à la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité, tout ça, tout ça.
Bonne soirée, bon week-end.
Bisous.
Ciao.